MER ou The New American Motor Elevated Road. Impossible d'être partout, aussi n'ai-je pu assister aux différentes épreuves automobilo-sportives qui se déroulèrent en ces temps derniers au sein de notre vieille France bien-aimée. Une aimable invitation de quelques constructeurs américains m'avait convié à l'une des plus intéressantes manifestations motoïstes de cette époque, la Coupe des Montagnes Rocheuses. Pourquoi la Coupe des Montagnes Rocheuses n'a-t-elle point produit plus de tapage dans la presse européenne? Disons-le franchement, c'est que les résultats furent loin de couronner les espoirs que chacun formait sur cette audacieuse épreuve. Sur les 43 voitures inscrites, en effet, toutes partirent, ce qui est fort joli. Mais nul n'arriva, ce qui est plus triste. 14 d'entre elles se brisèrent sur les pittoresques rochers qui donnent leur nom à cette belle chaîne de montagnes. 11 n'hésitèrent point à s'effondrer dans les précipices broussailleux et les torrents si répandus dans les parages. Quant au reste, la malchance a voulu qu'un troupeau de bisons surgit devant les voitures à toute vitesse au plus inopportun des instants. Une automobile bien conditionnée peut, à la rigueur, réduire un épagneul en subite descente de lit sur quelques routes nationales bien entretenues. Il n'en va pas de même lorsque, au lieu d'un fidèle cabot, se présente un lot de buffles que les plus pondérés statisticiens n'estiment pas à moins de 170 000 têtes. 18 voitures mécaniques entraient dans une masse de 170 000 bisons mâles ou femelles. Le calcul est facile à effectuer de la définitive purée résultat du contact. Nous pûmes, dès le lendemain matin, visiter le lieu de l'incident. Tous les buffles disparus sans laisser le moindre éclopé. Pour ce qui est des voitures, vous êtes-vous quelquefois fait une idée du néant? Nib, nib, nib. Le tout, matériel et personnel, écrasé, broyé, enfoncé dans le sol de la prairie, devenu aussi lisse qu'une piste de cirque. Car 170 000 têtes de bison représentent, si je ne me trompe, 680 000 sabots de cet animal, une paille, comme vous voyez. Tous ces détails afin de vous expliquer le peu d'enthousiasme et l'entrain relatif que déploya la grande construction américaine en vue d'une quelconque publicité mondiale. Et conclure que Nolascar éprouve de cette histoire le moindre découragement serait les lourdement méconnaître. La moralité de l'épreuve, au contraire, se dégage avec la plus aveuglante fulgurance en gens pour qui les demi-mesures ne sauraient exister. Le sol de la terre n'est décidément pas roulant. Tout au plus bon pour chevaux, cul-de-jatte, européens et limaçons. Nous, Yankees, circulons en l'air. Et l'immédiate construction du Moto Elevated Road fut décidée à l'unanimité. Que sera ce MER, comme il l'appelle déjà? Sa dénomination seule nous dispenserait à la rigueur d'en dire plus long, mais, à l'usage des quelques honorables personnes de l'assistance qui ne connaîtraient point la langue anglaise, nous voulons bien fournir quelques explications complémentaires, indispensable d'ailleurs, car les plus malins ne sauraient deviner l'ingénieuse façon dont les motoïstes américains dresseront, à 12 mètres au-dessus du sol de leur patrie, des milliers de légers viaducs sur lesquels bientôt rouleront leurs innombrables motocars. Les Français qui ont voyagé aux États-Unis éprouvent, dès qu'ils aperçoivent les fils télégraphiques de ce pays, une stupeur bien compréhensible, car, alors que chez nous ces fils forment un groupe de deux ou trois, une douzaine tout au plus, Un ensemble de fils se chiffre au pays de l'oncle Sam par un nombre infiniment plus considérable, quelquefois une centaine. Quand je dis fils télégraphiques, je comprends bien entendu tous les fils qui servent aux transmissions électriques, graphiques, phoniques et même transport d'énergie. Ces fils sont disposés les uns au-dessus des autres en sorte que leur ensemble constitue un plan vertical. Un plan vertical, dis-je, suivez-moi bien. Or, une idée simple mais géniale se vit éclore au cerveau d'un humble laveur de voitures automobiles de Chicago. Si, proposa-t-il, au lieu de disposer tous ces fils en sens vertical, on les disposait les uns à côté des autres en plan horizontal, en multipliant, bien entendu, le nombre de pylônes. Où voulez-vous en venir ? Dit froidement le chief engineer de la maison. Je veux en venir à ceci. Sur ces fils métalliques, j'installe un plancher d'ébonite, substance douée du double mérite, d'une admirable roulance et de nulle conductibilité électrique. Et dites-moi, quel plus admirable motor road ! Ai-je besoin d'ajouter que, frappé par la merveilleuse idée de l'humble laveur de voitures, le chief engineer lui demanda pardon de sa brusquerie, l'assurant de sa vive et désormais inaltérable amitié. Le patron de la maison, un rude homme celui-là, qui dans sa jeunesse avait mené des trains de bois sur l'Hudson en compagnie de Washington, alla plus loin encore. Mettant la main de l'humble laveur de voitures dans celle de sa fille aînée, « Je vous bénis, mes chers enfants, » dit-il, sur le ton de la plus franche tendresse.